L'Angleterre vaille que vaille se remettait en ordre quand le vieux roi d'Écosse, Robert Bruce, bien que déjà fort avancé en âge et de surcroît atteint de la lèpre, envoya vers le 1er avril, 12 jours avant Pâques, défier le jeune Édouard III et l'avertir qu'il allait envahir son pays. La première réaction de Roger Mortimer fut de faire changer l'ex-roi Édouard II de résidence. C'était prudence. En effet, on avait besoin d'Henri de Lancastre à l'armée avec ses bannières. Et puis Lancastre, d'après les rapports qui venaient de Kenilworth, semblait traiter avec beaucoup trop de douceur son prisonnier, relâchant la surveillance et laissant à l'ancien roi quelques intelligences avec l'extérieur. Or, les partisans des Despenser n'avaient pas tous été exécutés, tant s'en fallait. Le comte de Warren, plus heureux que son beau-frère le comte d'Arundel, avait pu s'échapper. Certains se terraient dans leur manoir, ou bien dans des demeures amies, attendant que leur âge fût passé. D'autres avaient fui le royaume. On pouvait se demander même si le défi lancé par le vieux roi d'Écosse n'était pas de leur inspiration. D'autre part, le grand enthousiasme populaire qui avait accompagné la libération commençait à décroître. De gouverner depuis 6 mois, Roger Mortimer était déjà moins aimé, moins adulé. Car il y avait toujours des impôts, et des gens qu'on emprisonnait parce qu'ils ne les payaient pas. Dans les cercles du pouvoir, on reprochait à Mortimer une autorité tranchante qui s'accentuait de jour en jour, et les grandes ambitions qu'il démasquait. À ses propres biens repris sur le comte d'Arundel, il avait ajouté le comté de Glamorgan, ainsi que la plupart des possessions de Hugh le Jeune. Ses 3 gendres, car Mortimer avait déjà 3 filles mariées, le lord Berkeley, le comte de Charlton, le comte de Warwick, étendaient sa puissance territoriale. Reprenant la charge de grand juge de Galles, autrefois détenu par son oncle de Chirk, ainsi que les terres de celui-ci, il songeait à se faire créer comte des Marches, ce qui lui eût constitué à l'ouest du royaume une fabuleuse principauté quasi indépendante. Il avait en outre réussi à se brouiller déjà avec Adam Orleton. Ce dernier, dépêché en Avignon pour hâter les dispenses nécessaires au mariage du jeune roi, avait sollicité du pape l'important évêché de Worcester, vacant à ce moment-là. Mortimer s'était offensé de ce qu'Orleton ne lui eût pas demandé un agrément préalable et avait fait opposition. Édouard II ne s'était pas comporté autrement envers le même Orleton pour le siège de Hereford. La reine subissait forcément le même recul de popularité. Et voilà la guerre qui se rallumait, la guerre d'Écosse, une fois de plus. Rien donc n'était changé. On avait trop espéré pour n'être pas déçu. Il suffisait d'un revers des armées, d'un complot qui fit évader Édouard II, et les Écossais, alliés pour la circonstance à l'ancien parti de Spencer, trouveraient là un roi tout prêt à remettre sur son trône et qui leur abandonnerait volontiers les provinces du Nord en échange de sa liberté et de sa restauration. Dans la nuit du 3 au 4 avril, l'ancien roi fut tiré de son sommeil et prié de s'habiller en hâte. Il vit entrer un grand cavalier dégingandé, osseux, aux longues dents jaunes, aux cheveux sombres et raides tombant sur les oreilles. « Où me conduit-on, mal travers ?» dit Édouard avec épouvante en reconnaissant ce baron qu'il avait autrefois spolié et banni et dont la tête fleurait l'assassinat. « Je te conduis, Plantagenet, en un lieu où tu seras plus en sûreté, et pour que cette sûreté soit complète. » « Tu ne dois pas savoir où tu vas, afin que ta tête ne risque pas le confier à ta bouche. » Maltravers avait pour instruction de contourner les villes et de ne pas traîner en chemin. Le 5 avril, après une route faite tout entière au grand trot ou au galop, et seulement coupée d'un arrêt dans une abbaye proche de Gloucester, l'ancien roi entra au château de Berkeley pour y être remis à la garde d'un des gendres de Mortimer.